Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui a intégré le monde de la tech et de l'intelligence artificielle à ses prémices. Et bien avec elle, on va retracer cette dernière décennie. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Selma Gharabi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup. Ça va, Lala Selma, merci infiniment. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va?
Alhamdoulilah, et vous? C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors Selma Gharabi, vous êtes extrêmement intégrée, engagée dans l'innovation et dans l'intelligence artificielle. Alors, on va essayer de comprendre comment tout ce processus s'est construit. Et surtout aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un nouveau secteur pour le grand public. Oui. Mais avant ça, et l'entrepreneuriat aussi, vous y êtes. Mais avant ça, justement, on va s'arrêter sur la petite fille que vous étiez. Apparemment, l'entrepreneuriat pour vous, ça a démarré dès l'âge de 8 ans. Est-ce que c'est vrai?
Oui, effectivement, parce que c'est, on va dire que quand j'étais petite, la plupart du temps, quand on me posait la question sur ce que vous voulez faire par la suite, j'avais toujours l'habitude de leur répondre le fait d'avoir ma propre entreprise. Donc, très, très jeune, je disais ça. Il y avait même une tante derrière moi qui s'amusait à me taquiner avec ça à chaque fois dans les lignes et tout. Et donc, dans l'enfance, ce que je faisais, c'est tout simplement le fait de vous rappeler des petits bracelets qu'on préparait dans les années 90. Donc, j'en préparais, j'en vendais à mes camarades et je faisais des ventes dans ce sens.
Alors, une petite question. Est-ce que vous aviez des modèles d'entrepreneurs dans la famille? Est-ce que vous essayiez d'imiter quelqu'un?
Au fait, je ne vais pas dire imiter quelqu'un, mais je vais dire que la plupart du temps, quand on me parlait de mes grands-parents, de ma famille, tout ça, c'était plus des personnes qui étaient tout le temps dans le commerce. Et donc, quand on grandit en entendant des histoires de grands-parents, d'arrière-grands-parents qui avaient des caravanes, athlètes qui traversaient le Sahara pour arriver au Maroc et tout ça, on a tendance à rêver à ce genre de choses, à ce côté commerce et business. Puis bien sûr, par la suite, il y a eu pas mal de personnes qui étaient dans ça, dans notre famille. Mais imiter, non.
Imiter, non. Personne de... ouais. Alors, vous êtes resté dans cette dynamique entrepreneuriale de l'âge de 8 ans jusqu'à quel âge?
Alors, jusqu'à maintenant, je suis toujours entrepreneur.
Dans la même dynamique. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'arrêt à un moment, au moment des études supérieures, etc.?
Non, pas du tout, parce que même pendant les études supérieures, j'ai fait les mathématiques, donc j'ai étudié les maths. Et même pendant cette période-là, il y avait toujours des projets en parallèle qu'on faisait, des projets qu'on créait, des plateformes qu'on développait. Donc, je suis restée dans cette même dynamique. Et ça même a été accentué au niveau de la faculté, on va dire, des sciences. Parce que à ce moment-là, j'ai rencontré en fait des étudiants comme moi en mathématiques qui avaient également des rêves d'avoir leur entreprise, qui cherchaient des partenaires. Je cherchais à créer toute cette synergie entre nous.
C'est incroyable. En fait, c'est la grande différence entre votre génération et la mienne. Moi, j'ai eu mon bac en 99. Vous avez eu votre bac, je crois, 10 ans après moi, c'est ça?
En 2006-2007.
Ouais, pratiquement 10 ans. Et c'est incroyable. En une décennie, le mindset a complètement changé. À mon époque, eh bien, très rares étaient ceux qui étaient, je me rappelle, avec cet esprit-là. Et vous, ce que vous dites, c'est que finalement, votre génération, eh bien, vous étiez nombreux à partager les mêmes rêves et comment se supporter mutuellement et comment se compléter. Alors, donc des études en mathématiques.
Oui.
Comment ensuite êtes-vous arrivée à tout ce qui est, on va dire, intelligence artificielle? Parce que nous, on entend parler de l'intelligence artificielle, et surtout, je crois, grâce à ChatGPT depuis, 3 ans, que ce mot est devenu très courant dans notre langage quotidien. Avant, c'est quelque chose qui était peut-être de l'ordre de certaines grandes agences comme la NASA ou autres. Mais comment la jeune femme que vous étiez à l'époque est rentrée dans ce domaine?
Alors moi, autrefois, J'aimais bien chercher. J'étais une personne qui était curieuse, qui adorait découvrir les choses. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle automatiquement de mathématiques, d'algorithmique, d'algèbre, d'analyse, de probabilité, tout ce qui va avec.
C'est vrai, oui.
Et donc, en 2008 exactement, je suis devant mon PC à la maison, j'étais en train de chercher pour découvrir. J'adorais apprendre. Je suis une personne qui adore apprendre jusqu'à maintenant. Et donc, ce côté-là m'a poussé à découvrir des plateformes internationales, notamment Udemy, Coursera. Et donc, j'étais parmi les premières 1000 utilisatrices de ces plateformes en 2008. Et donc là, il y avait à ce moment-là des cours en anglais qui étaient dispatchés directement par des professeurs de Stanford, de Berkeley, donc de grandes universités, c'était du direct. Donc si on ratait l'heure où c'était, on va dire, streamé, on ratait le cours. Et donc je suivais ces cours-là, il y avait un cours d'intelligence artificielle. Pour vous dire la vérité, à ce moment-là, la première fois que j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle, je l'ai trouvé un peu, on va dire, stupide, dans le sens qu'il fallait lui apprendre à comment détecter, par exemple, l'exercice était comment écrire le 8, et comment le fait de la faire découvrir à ce qu'elle puisse le faire. Mmh. Et par la suite, en continuant les études, bien sûr, en faisant de la théorie des systèmes informatiques, en continuant dans le monde de l'IT, en faisant de l'auto-apprentissage, donc je suis autodidacte sur la plupart du temps, que ce soit IA, marketing, business et tout. J'ai pu côtoyer plus directement les choses, spécialement quand je suis partie à la Silicon Valley. Là, les gens y parlaient énormément de machine learning, de deep learning. Et il y avait...
Ça, c'était vers quelle année?
C'était en 2019.
OK.
Donc, avant, en 2016, il y avait beaucoup de mes amis qui ont suivi des masters en machine learning. Donc, par la suite, il y a eu le deep learning qui a commencé. Puis en 2017, il y a eu les Transformers, un article qui a pu révolutionner le monde de l'intelligence artificielle. Et donc, c'était les discussions, je ne vais pas dire dans les cafés, mais plus que les discussions en off. Mmh. On avait entre nous sur ça. Et donc, ça, on s'intéressait à ce genre de sujet. Mais je vais dire que l'anglais a été un point qui m'a beaucoup aidé, dans le sens que la plupart de la documentation et tout ça, c'était dans cette langue.
En anglais, absolument. Alors, si je comprends bien, là, Salma, vous êtes une autodidacte de l'intelligence artificielle?
Pas à 100%. Je vais dire que j'ai suivi des cours, mais provenant de grandes structures, de grandes universités. Donc, voilà, et l'intelligence artificielle, elle est basée sur les mathématiques à 100%. Mmh. Donc, est-ce que j'ai suivi un cursus au Maroc? Non. Est-ce que j'ai suivi des cours qui étaient donnés par des grandes universités américaines, anglaises et allemandes?
Oui. Oui, mais des cours, pas une formation longue durée.
On va dire que c'est modulaire, c'est des trimestres, c'est des semestres et des trimestres.
Ok. Alors, donc en quelque sorte, vous avez plongé dans l'intelligence artificielle quand elle était encore réservée, on va dire, uniquement à une élite.
C'est ça. On va dire à une élite ou bien aux étudiants de mathématiques et d'informatique. Mmh.
Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que l'intelligence artificielle, que tout le monde a l'impression de s'y connaître en intelligence artificielle, que c'est en quelque sorte galvaudé?
Oui. Malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas à vraiment comprendre comment elle opère, comment elle marche et tout ça. Et donc, ils se sont un peu imbriqués sur ce domaine-là comme une trend. Et qu'au final, on se retrouve avec les mauvais concepts qui sont, on va dire, dispatchés, qu'on n'explique pas correctement aux personnes comment il faut l'utiliser et que la vulgarisation de ce domaine-là ne se passe pas d'une manière, on va dire, assez conséquente et concrète par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est parmi les valeurs qu'on essaye de transférer aujourd'hui, c'est de pouvoir donner des formations qui sont vraiment concrètes dans ce monde-là et que les gens puissent comprendre réellement c'est quoi l'intelligence artificielle, comment ils peuvent l'utiliser d'une manière concrète et correcte et comment ils peuvent se protéger également des risques et des dangers, parce que ça reste une technologie émergente qui vient de commencer et qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent se créer autour, et spécialement que jusqu'à maintenant, on n'a pas de loi internationale ni de policies, à part certaines, on va dire, comme le AI Act et tout ça, qui ne nous permettent pas de nous protéger à 100% par rapport à tous les risques qu'elle peut induire, que ce soit du côté données personnelles, vie privée, cybersécurité, ce qui va avec.
Alors, revenons à votre aussi parcours d'entrepreneur. Vous avez monté combien de boîtes? Et je sais que vous avez aussi été énormément dans l'enseignement.
Oui. Ouais. Alors, j'ai en fait monté deux boîtes. Donc, la première, ça a été en 2017, c'était Business Innovation. L'idée, c'était de pouvoir, démocratiser et rapprocher les gens à l'innovation, mais également de pouvoir soutenir les femmes dans tout ce qui est en relation avec la transformation digitale et la digitalisation, en les autonomisant et tout ça. La deuxième, c'est Destratech, c'est développement stratégie technologique. Je continue dans le même concept, mais on est plus orienté tech, on va dire, avec des formations qui visent à, comme je l'ai dit, à apporter ce côté vulgarisation de la tech, notamment de l'IA aujourd'hui digitale, le numérique vert, le numérique responsable et également l'autonomisation des femmes. Pour ce qui est de l'enseignement, oui, effectivement, donc j'enseigne dans les écoles supérieures, que ce soit les MBA, l'exécutif ou les masters, et ça reste toujours dans le même contexte, donc transformation digitale, impact des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est autour de ça et en relation avec le business.
Alors, quand vous dites soutenir les femmes dans la tech, pourquoi? Pourquoi les femmes ont-elles besoin d'être soutenues? Ou bien, d'une autre manière, quels sont les freins aux femmes dans le monde de la tech?
Alors, les femmes dans le monde de la tech, déjà, première des choses, il faudra savoir que la plupart, on a un quota incroyable de femmes qui sortent ingénieurs.
Oui.
Mais le souci qu'on a, c'est que quand elles se retrouvent en face de dans leur carrière, un certain temps, elles switchent, donc elles changent de trace, de carrière, et là, elles ne continuent pas dans la tech. Donc, elles préfèrent travailler dans d'autres domaines. Donc, déjà, première des choses, il faudra, ces femmes-là, il faut qu'elles aient des role models, on va dire, ou bien des leaders devant elles pour leur dire que voilà, même si c'est dans le monde du travail, c'est un monde qui est dominé à 100% par les hommes, à peu près. Donc, je dis le 100% parce que quand on entre dans une équipe IT, on a la plupart, plus on monte dans les grades, moins il y a de femmes qui sont représentées. Donc, il y a moins de femmes qui sont dans ce genre de poste. Donc, à ce moment-là, pour qu'une jeune fille puisse se voir un jour directrice technique, pour qu'elle puisse se voir un jour tech lead, ou bien pour qu'elle puisse se voir dans un rôle de management, elle a besoin quand même d'être soutenue, qu'on lui dise que c'est OK, qu'on l'accompagne pour qu'elle puisse arriver à ces positions-là. Parce que ce qu'on voit, c'est que les hommes, entre eux, ils sont solidaires. Mais les femmes, comment elles vont se retrouver dans ce monde qui est en fait dominé par des hommes? Et donc, c'est de là où ça vient le fait qu'on a besoin de soutenir ces jeunes filles. C'est bien de les avoir ramenées jusqu'à ce qu'elles deviennent ingénieures ou bien qu'elles sortent docteur dans le côté technique et tout ça. Mais par la suite, il faut continuer le travail pour qu'elles puissent également, on va dire, fleurir et réussir à atteindre des postes qui sont importants. Spécialement que si on veut réussir à créer une société qui soit correcte, une entreprise qui, on va dire, est équitable, éthique, qui soit vraiment, on va dire, équilibrée, il faut avoir les deux forces dans le commerce et dans les top levels. Voilà. C'est pour ça que les femmes, elles ont besoin de soutien, de savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'on est là pour elles. Et qu'il y a plusieurs réseaux qui se sont développés au niveau du Maroc, qui sont connectés à des réseaux globaux, pour leur apporter cette aide, ce support, cet accompagnement pour pouvoir continuer.
Voilà. Alors, vous avez vous-même aussi bénéficié d'une certaine forme de soutien et de visibilité à travers différents concours.
Oui, effectivement. Donc, on va dire que ça revient à la période de mes études, parce que là, à notre moment, c'est là où ça a commencé la notion de start-up. On entendait parler énormément. Et donc, du coup, qui dit start-up, qui dit hackathon, qui dit bootcamp. Il y avait également les concours internationaux. Donc, du coup, la participation à ce genre de choses, ce genre d'événements, se retrouver, en fait, effectivement, donc une équipe, plusieurs équipes composées d'hommes et très peu de femmes ou bien de jeunes filles qui sont incluses dans ce genre de concours. Pas comme aujourd'hui, on voit quand même plus de jeunes filles qui participent. Donc, du coup, ça aide en quelque sorte. Et le fait de se retrouver à être la personne, bien la jeune fille qui est en train d'être en compétition avec des équipes qui sont composées à 100% par des hommes. Donc, oui, c'est vrai, il y a également ce côté-là.
Mm.
Et donc, les réseaux desquels j'ai bénéficié quand j'étais étudiante, ce n'est pas des réseaux dédiés à 100% aux femmes, aux jeunes filles. C'était plus des réseaux qui sont plus les grandes structures comme le Microsoft Student Partner qui existait autrefois. Aujourd'hui, je pense que le DigiGirls, ça s'appelle DigiGirls, et d'autres initiatives comme ça.
Alors, justement, vous avez intégré ce monde de l'intelligence artificielle et de la tech depuis plus de 10 ans au Maroc. Est-ce que vous avez observé une évolution féminine?
Alors, aujourd'hui, je vais dire qu'en 2026, je vois plus de chefs d'entreprise qui sont femmes, qui sont dans le même domaine que moi et tout ça, qu'il y a 4 ans, 5 ans, bien il y a 6 ans, donc, en 2017, ça veut dire autrefois. J'ai cherché à créer un réseau, à ramener comme sport des entrepreneurs, à avoir des femmes qui sont également dans le monde d'entrepreneuriat et tout ça. C'était très rare de les trouver dans le même domaine, dans la transfo digitale, pas la communication, le marketing digital. Je parle de la transfo digitale, c'est de créer des process, des procédures, de digitaliser, d'avoir des systèmes et tout ça. Donc, c'était très rare de trouver des femmes qui étaient chefs d'entreprise et qui faisaient ce domaine de tech, qui avaient plus d'hommes. Aujourd'hui, je pense avec l'intelligence artificielle, avec le changement qui s'opère au niveau du Maroc, avec les nouvelles politiques, les nouvelles agendas qui sont mises en place, il y a plus de femmes qui se sont lancées dans ce monde. Et je pense qu'il y a plus, on verra encore plus apparaître dans les mois à venir et finalement les années à venir prochainement. Donc, bien sûr, il y a eu un grand changement.
Eh bien, merci infiniment. Merci beaucoup, Selma Gharabi, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Avec grand plaisir, Madame Yassine. C'est un très grand plaisir. Merci à vous.
Nark Mbarok Lela. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.